Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Ma mission, tous les midis, vous montrer que la France bouge dans ses territoires, ses entreprises, ses associations et que c'est vous les acteurs de ce changement. Cette semaine, c'est au salon du Made in France qu'on pose nos micros en avant-première. Gros plan sur une filière aujourd'hui qui repart du bon pied, c'est celle de la chaussette. Elle protégeait les pieds des cow-boys de Camargue, la botte gardienne se modernise, la maison était en faillite, aujourd'hui elle va bien, merci. Ras-le-bol de l'évier et de l'éponge, vous manquez de place et rêvez d'un lave-vaisselle. On vous présente Bob aujourd'hui, c'est la solution, c'est ça la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, comme chaque jour, vous avez la parole. Venez nous dire, tiens, par exemple, Anissa, comment vous achetez vos chaussettes?
Moi, chez les enfants, parce que je fais du 35. Donc dites-nous comment vous achetez vos chaussettes, 39-21, et sur Twitter avec le hashtag Europe 1, Raphaël.
Oui, parce que c'est une vraie filière qui est en train de redémarrer en France. Et vous allez voir qu'il y a de quoi faire chez nous dans l'Hexagone pour accueillir nos invités. Et Elisabeth Assayag est à mes côtés. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël.
Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar et notre coach du jour. Bonjour. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Des chaussettes, c'est vrai qu'on en porte tous, mais il y a chaussettes et chaussettes. Bonjour Thierry Carpentier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez repris Kindy en juin 2017. Kindy, que vous co-dirigez aujourd'hui. Kindy, qui allait très mal, hein, disons-le, depuis le début des années 2000. Qu'est-ce qui fait plonger une marque aussi ancienne que Kindy? Parce que c'est la plus vieille bonneterie de France, 1863.
Absolument. Il y a beaucoup de raisons, nous pensons, qui ont fait chuter Kindy. Principalement, il y a eu le tournant de la désindustrialisation, c'est-à-dire que il y a eu le moment où les choses sont devenues trop chères pour les produits en France, et donc tout le monde a voulu absolument aller produire à l'étranger. Et Kindy, à l'époque, qui frôlait les 800-900 personnes tout de même, a décidé de délocaliser une grosse partie de ses productions à l'étranger. Mais en même temps, en faisant cela, ils ont perdu un petit peu leur public. Et ça, c'est la première chose. Et ensuite, il y a eu des erreurs de gestion qui ont été lourdes. C'est une société qui a été introduite en bourse. Et cette société-là n'était plus devenue assez importante pour pouvoir, satisfaire le marché. Donc, entre une direction qui était, un petit peu éloignée du vrai marché des Français, de la chaussette, du produit réel, plus, une désindustrialisation pas forcément très bien réussi, eh bien, au bout du compte, des millions de pertes.
Avec une marque qui plonge. Elisabeth, pourtant, il y a un vrai marché. Hein. C'est combien de paires vendues chaque année, les chaussettes?
Figurez-vous qu'on vend 300 millions de paires de chaussettes chaque année en France. Sauf que la plupart de nos petites chaussettes douillettes qu'on aime tant, eh bien, elles sont fabriquées en Chine, en Turquie ou encore au Bangladesh. En ce qui concerne la chaussette Made in France, parce que c'est ça dont nous parlons aujourd'hui dans la France qui bouge, dans les années 60, il y avait près de 500 usines de chaussettes. Aujourd'hui, plus d'une vingtaine de marques françaises se sont imposées sur ce marché. Et concernant les usines, là, ça se compte sur les doigts d'une main, oui. D'une seule main. Les Français achètent en moyenne 9 paires de chaussettes par an.
Alors, la bonneterie Kindy, de l'époque, de 1863, elle s'est vraiment spécialisée, elle, dans la chaussette vers les années 50, avec un vrai marketing fort. C'est ça qui l'a fait décoller à l'époque, les fameux slogans autour de la chaussette Kindy,
oui, absolument.
Notamment.
Absolument. La personne qui s'appelait Monsieur Blocker de l'époque, qui a réellement créé et lancé la marque Kindy, et en fait est parti aux États-Unis, était complètement fan de John Kennedy, et en revenant, il s'est dit je vais créer une marque de chaussettes, et pour ne pas avoir de problématiques de droit, il l'a donc appelé Kindy pour ce qui en France
les chaussettes qui ne se cachent plus.
Et
on avait un temps d'avance, dites-moi, à l'époque.
Ah, il en avait même deux, absolument. Ouais. Non, c'était un grand patron, je pense, Monsieur Blocker.
Que dit le coach?
Alors, moi, je dirais que ce qui me vient à l'esprit, c'est que, en fait, pour garder sa valeur ajoutée dans un milieu comme la chaussette, qui est très concurrentiel, enfin, on l'a vu, c'est international, tout le monde porte des chaussettes. Et je me dis, les positionnements, justement, de la France, généralement, c'est d'aller chercher soit l'image luxe, soit de l'innovation. Et donc sur ces deux dimensions, que ce soit luxe ou que ce soit innovation, est-ce que avec Kindy vous avez des projets d'aller dans cette direction-là, l'un ou l'autre? Alors en innovation de chaussettes, j'avoue être un petit peu sec, mais peut-être vous avez des idées.
Alors, pour ce qui est du positionnement de Kindy sur le luxe, Kindy n'ira pas sur le luxe parce que Kindy est une marque grand marché, c'est une marque qui est faite pour l'ensemble des Français. Nous avons d'autres marques au sein de notre groupe qui peuvent traiter ce pinceau qui sont les chaussettes qui sont chères. Les chaussettes, ça va de, vous pouvez trouver des chaussettes de 1 euro à 1,50 euro jusqu'à 500 euros la paire. Donc on a vraiment un range.
Mais qui vous dites on n'y va pas, mais vous allez quand même participer au défilé de chaussettes haute couture.
Absolument.
C'est le 22 novembre, c'est bientôt.
Oui, alors pour autant, on a un gros savoir-faire et on a bien l'impression de montrer.
Parce que Kindy, c'est aussi d'autres marques à l'intérieur.
Absolument. Nous, dans le groupe Kindy que nous avons repris il y a un an, il y a Kindy, il y a Achille, il y a Tio qui sont des chaussettes de sport, de compétition, il y a Innov Active qui sont des chaussettes médicales, nous avons la licence Coq Sportif, la licence Skechers. Donc nous avons...
Ça veut dire clairement qu'on a un vrai savoir-faire. Parce
absolument.
Que là, on a tout le panel des chaussettes réunies.
Absolument. Et dans le choix que je viens de vous dire, vous avez des chaussettes qui ont des valeurs d'un rapport de 1 à 4. Donc nous sommes capables d'aller sur plusieurs types d'amis de marché. D'ailleurs, quand nous avons repris, soyons clairs, hein, nous avons été traités de fous, personne n'y croyait. Quand nous étions à la barre, nous étions les seuls Français.
Attendez, un peu normal, parce que vous êtes à la tête d'une boîte qui comptait, il y a encore 10 ans, 800 salariés. En juin, l'année dernière, quand vous reprenez, il y en a 59.
Absolument.
Aujourd'hui, vous avez remonté la pente, vous êtes 110.
Absolument, oui. On a réussi
pari.
On espère qu'on a réussi à casser durablement la courbe. Il faut dire que nous pensons qu'il y a eu de grosses erreurs de gestion qui ont été faites auparavant. Pour autant, le marché est compétitif et compliqué. En fait, il y a les marques françaises, mais on se bat aussi surtout contre les grands, je ne sais pas si j'ai le droit de citer leur nom, mais contre les grandes chaînes, Zara, Mango, H&M, Celio et autres qui ont des forces de frappe.
C'est d'ailleurs ça qui a mis l'entreprise la tête sous l'eau, hein, à un moment donné. C'est l'arrivée de la grande distribution, soyons clairs.
Alors, l'arrivée de la grande distribution.
Ou en tout cas de ces marques-là qui produisent à bas coût.
Dans la grande distribution, mais déjà, la grande distribution aujourd'hui souffre énormément et se fait largement concurrencer par tous ces magasins, on va dire, qui peuvent être discount ou pas, mais qui sont capables de vous amener des chaussettes en quantité à des prix qui sont attractifs pour les clients. La crise aussi a fait quelque chose de terrible pour ce marché-là, parce qu'une chaussette, c'est un produit que l'on peut fabriquer en France et ailleurs. Quand la crise vient et que les gens regardent plus attentivement leur portefeuille, ils ont tendance à aller sur des produits moins chers.
Alors justement, vous parlez prix. Elisabeth, comment on s'y retrouve entre chaussettes d'Asie, chaussettes fabriquées en France?
C'est très simple, par exemple, vous parliez d'H&M. H&M, vous avez pour 9,99€, donc quasiment 10€, deux paires de chaussettes. Bleu Forêt, fabrication française, c'est le même prix, sauf que c'est une paire, 9,90€. En coteau rose, chez La Bonale, qu'on a tout à l'heure, 11,80€. Archiduchesse, 11€. Donc, voilà, c'est divisé par deux chez ces magasins de retail.
Vous avez aussi, vous, décidé chez Kindy de changer votre modèle de vente, de faire, je crois, des abonnements.
Absolument.
Ça, c'est quelque chose qui suit bien le mouvement, qui va plaire, hein, je pense, à notre coach Frédéric Mazella.
Cette box.
Absolument. Nous partons du principe que dans la chaussette, en fait, on peut avoir deux types d'achats. On a la chaussette vraiment plaisir, que l'on a envie de choisir, qui va être jolie, sur lequel on va porter un choix. Celle-ci, pour nous, n'a pas de logique dans l'abonnement. Mais la chaussette, c'est aussi un produit, on en a besoin tous les jours.
On perd tout le temps.
Qu'on perd en permanence, qui finit par se dégrader. Et souvent, le matin, on voudrait simplement, on va dire, un caleçon et une paire de chaussettes sympas, utiles, rapides, pas chères. Et sans forcément être obligé d'aller chercher.
D'un mot, Frédéric ?
Moi, j'ai juste une question, je pense, qui concerne tout le monde. Parce que le problème des chaussettes aussi, c'est que normalement, elles sont par deux, mais très souvent, on n'en retrouve qu'une.
Il est où
le paradis des chaussettes ?
Nous le cherchons.
Faudrait qu'on les vende par trois, peut-être.
Nous le cherchons.
Pour celles qui se perdent.
Oui, c'est un mystère. Il y a effectivement un nombre de chaussettes qui disparaissent. Et nous n'avons pas de solution à part en proposer de nouvelles. Mais effectivement, c'est un vrai débat.
On va continuer ce débat justement sur la chaussette sur Europe 1 aujourd'hui.
Il est 13h09.
Europe 1.
Un savoir-faire, une histoire. C'est aussi ça l'univers de la chaussette en France. L'entreprise qui va nous rejoindre. Et de celle-là, c'est La Bonale. À tout de suite.
La France bouge et c'est le pied tous les jours de 13h à 17h sur Europe 1, vous le savez, vous participez à cette émission, vous pouvez poser toutes vos questions. N'hésitez pas, Twitter, hashtag Europe 1, le 3921, c'est le standard d'Europe 1. Et aujourd'hui, on parle des chaussettes made in France et elles ont la cote, ces chaussettes, Raphaël.
Je suis toujours avec Elisabeth Assayag qui m'accompagne toute la semaine, avec notre coach Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar. Si je vous dis que c'était l'entreprise qui fournissait dans les années 70 le plus grand nombre de chaussettes et qu'il y avait à l'époque 1000 salariés, 15 millions s'il vous plaît de paires par an. Bonjour Dominique Malfait.
Bonjour.
Vous êtes aujourd'hui le PDG de La Bonane. Alors il y a beaucoup de choses qui ont changé hein, depuis le début de l'histoire de La Bonane. C'est de l'or, dites-moi, que vous avez dans les mains aujourd'hui, parce que La Bonane, c'est une vraie histoire, une vraie saga presque, beaucoup plus qu'un produit.
Ah, c'est en effet une belle histoire, une histoire qui a bientôt une centaine d'années.
1924.
Tout à fait, et qui a eu des hauts, des bas, et des difficultés, et des moments de plaisir, et des moments de belles périodes. Voilà.
Salomon Lipovski, qui fabriquait les chaussettes en Russie, qui s'en va d'abord en Angleterre, et puis qui débarque chez nous, en France, en Alsace.
Tout à fait, en 1924.
Et vous êtes toujours là-bas en Alsace aujourd'hui?
On est toujours sur le même lieu de production qu'il a été créé en 1924.
Alors je parlais de saga parce qu'il est décédé, le fondateur, son fils a pris la relève, il est décédé lui aussi finalement. C'est le petit-fils qui arrive aux commandes, c'est un novice et du coup il va mal gérer les choses en partie. C'est comme ça que commence, on va dire, le déclin de La Bonane.
Il y a aussi ça, mais il y a le fait que la distribution a changé sur cette période-là.
L'arrivée de la grande distribution?
La grande distribution, et à l'époque, La Bonane ne croyait pas du tout à la grande distribution. Ce qui fait que on s'est un peu enterré dans notre organisation marché sélectif, grands magasins et grossistes qui vendaient les chaussettes à l'époque.
Alors, entre-temps, vous êtes racheté par Kindy, hein, justement.
On est racheté en 79.
En 79, mais il n'y a pas vraiment de stratégie commune qui se dessine. Finalement, chacun vit sa vie de manière un peu indépendante. Sauf que ça ne marche pas très bien. Résultat, le groupe va décider de se séparer de La Bonane en 95, c'est ça ?
98.
Et vous arrivez entre-temps.
En 95, le groupe Kindy sort...
Il valide le retrait de la...
Voilà, sort la marque du marché. Et en 98, décide de fermer cette unité de production.
Vous êtes là, vous arrivez en 85.
Je suis en 85, j'ai démarré ma carrière chez La Bonane.
Et vous vous dites,
ensuite,
on ne peut pas laisser
chez Kindy, voilà.
Cette perle-là s'éteindre. Ce n'est pas possible.
Bah oui,
vous décidez de reprendre.
C'est un beau savoir-faire, une belle histoire. Et j'ai toujours été un persuadé du Made in France. Donc à l'époque, c'était difficile. En 99, on ne parlait pas du Made in France comme aujourd'hui. Mais toujours dit qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a une vraie tendance, quoi.
Le marché permet qu'il y ait de la place pour tout le monde aujourd'hui. On est en train de faire redémarrer vraiment cette filière. C'est ce que vous sentez?
Oui et non. Hein, on est quelques fabricants de chaussettes en France, mais on ne représente rien sur le marché. Hein, comme on le disait tout à l'heure, le marché représente 300 millions de paires, un peu plus de 300 millions
360,
de paires.
Je crois, oui.
Tous les fabricants français réunis doivent fabriquer à peu près 10 millions de paires. Quoi. Donc,
ouais, ça veut dire qu'il y a encore de l'espace
à
prendre.
Tout à fait. Il y a encore de l'espace, il y a encore à communiquer sur le savoir-faire du produit et les origines du produit.
Alors, comment est-ce que vous fabriquez, justement? D'où viennent les produits? C'est important.
Alors, d'où viennent les produits? Aujourd'hui, malheureusement, la filière textile en France est fortement sinistrée. Puisqu'il y a 10-15 ans, on a vu disparaître un maximum de filatures, hein, les gens qui transforment de la fibre en fil, hein, que nous on utilise du fil pour tricoter les chaussettes. Et toute cette filière a quasiment disparu. Et aujourd'hui, les approvisionnements, si on veut une gamme assez complète de produits, c'est ce qu'on fait avec la marque La Bonane, si on veut une gamme assez complète de produits, nous sommes obligés d'aller sourcer les matières en Europe. Hein. Nous, on travaille qu'avec l'Europe, mais en Italie, en Allemagne, en Espagne, au Portugal.
C'est la même chose pour vous chez Kindy, ou est-ce que vous arrivez à avoir une partie du fil qui vient de France?
Alors nous 99% du fil que l'on achète n'est pas fait en France. Les grandes places de production de fil dans le monde, moi à ma connaissance, la plus grosse c'est la Turquie, qui inonde derrière l'intégralité du monde. Là on va avoir les fils dits traditionnels. Après, si on arrive sur des fils qui sont techniques, alors à partir de ce moment-là, on peut retrouver des choses en France, en Italie, en Allemagne effectivement, mais sur des fils qui sont techniques.
Je vous pose la question parce que manifestement chez La Bonane, vous avez lancé une marque Frenchie par La Bonane il y a 2 semaines à peine.
Hein.
Et alors là, pour le coup, le coton vient des Vosges, les fils sont recyclés dans le sud-ouest et la teinture est faite en Normandie. Ça veut dire qu'il y a un potentiel.
Tout à fait. Alors ce projet la Frenchie est suite à des difficultés de l'entreprise et à un besoin de croissance. Et l'idée de départ était de dire on va fabriquer du Made in France comme on le fait habituellement, mais on va aller un peu plus loin dans la démarche puisqu'on va partir des matières qu'on peut trouver en France.
Une question du coach, c'est avec Mazella.
Oui, ça rejoint un petit peu parce qu'on a abordé le sujet tout à l'heure, mais un peu rapidement, sur la chaussette box, le marché. Est-ce qu'il existe aujourd'hui un marché en ligne de la chaussette? C'est-à-dire justement, on peut s'abonner et puis recevoir ses chaussettes. Et si oui, comment vous vous positionnez là-dedans? Alors, j'ai compris que chez Kindy, vous aviez quelque chose. Mais
oui, chez Archiduchesse qui va nous rejoindre, c'est pareil, voilà, hein, c'est en ligne aussi.
Est-ce qu'il y a un vrai modèle à aller chercher?
Alors, il existe pour l'instant, il y a un Suisse qui a, que je ne vais pas citer, mais qui a monté son modèle sur l'abonnement avec une chaussette à l'époque qui était une chaussette monochrome. Enfin, il ne pouvait y avoir qu'une seule couleur, sur cette marque-là. Cette marque-là s'est bien développée. Et maintenant d'ailleurs va chercher d'autres, en fait il sort de son prix unique avec son produit unique pour aller proposer d'autres choses. Mais oui, nous on pense que réellement il y a un marché là-dessus, parce que finalement la chaussette, qu'elle arrive chez vous par la poste ou vous allez aller chercher on va dire dans un magasin traditionnel, le principal c'est de l'avoir.
Vous êtes d'accord, Dominique Malfay?
Tout à fait. Alors nous on a déjà une grosse activité avec la marque Labonal sur le web. Sur la Frenchie, nous allons aussi développer la partie web et notamment en box, puisque c'est un positionnement plus facile. Mm-hmm. C'est on enlève une contrainte au consommateur le matin qu'il ne trouve pas ses chaussettes. On lui livre tous les mois ou tous les deux mois ses paires de chaussettes.
Donc c'est quelque chose qui est en plein développement. On va justement aller sur le web dans un instant. Ne bougez pas.
Il est 13h19.
Europe 1.
Il y a les marques qui ont une histoire et celles qui ont soif de l'écrire. C'est le cas d'Archiduchesse. Elle fêtera ses 10 ans l'année prochaine. C'est ça la France qui bouge.
Et tous les jours sur Europe 1, de 13h à 14h, on n'a jamais le moral dans les chaussettes parce que la France bouge. Grâce à vos invités tous les jours, Raphaël Duchemin, c'est un festival hein, aujourd'hui.
Oui, je vous félicite Anissa, vous avez bien préparé l'émission.
Vous pouvez continuer à réagir, Twitter, hashtag Europe 1 et le 3921, c'est le standard.
Toujours avec notre coach Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar, et avec Elisabeth Assayag qui est à mes côtés, preuve que le secteur est florissant et qu'il redémarre. Beaucoup de nouvelles marques sont arrivées récemment sur le marché de la chaussette. C'est le cas d'Archiduchesse. Bonjour Camille Zamo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes la présidente d'Archiduchesse. Vous avez vu, je le répète, hein, j'ai pas trop de mal. C'est quoi l'histoire
facile.
C'est celle des chaussettes de l'Archiduchesse, c'est ça, qui vous a inspiré?
Exactement. Oui, c'est vrai que le nom est très inspiré de cette petite expression que je ne dirais pas non plus.
Archisèche.
Oui, tout à fait. On s'entraîne pourtant, mais c'est assez difficile. Et donc là, nous, notre marque, donc on est beaucoup plus jeune que la Bonal et Kindy.
10 ans l'année prochaine. Hein.
Exactement. On va avoir 10 ans l'année prochaine. Et nous, on n'est pas fabricant. On travaille avec une usine de fabrication Brousseau Textile qui est basée dans le Limousin, avec qui on a la certification Origine France garantie et qui développe nos produits, nos chaussettes, parce qu'on fait aussi quelques autres produits, qui développe nos produits depuis le départ.
Puisqu'on en parle, Elisabeth, Brousseau existe depuis 80,
Brousseau,
c'est ça,
90
ans, oui.
Ouais, ils sont dans le Limousin et vous les connaissez bien, hein, puisque
bien.
Vous fabriquez, Brousseau fabrique des chaussettes dans le village près de Limoges et fournit des sites de vente en ligne, dont Archiduchesse,
il y a d'autres entreprises françaises qui fabriquent des chaussettes.
Il y en a beaucoup plus. Oui, il y a Bleu Forêt que vous connaissez tous, qui appartient à la société Tricotage des Vosges. Son usine de fabrication est là aussi donc située dans les Vosges. Vous avez l'entreprise Perrin qui existe depuis 1924. Vous avez aussi Bonne Maison, Berthe ou alors j'ai bien aimé le nom ou Berthe au Grand Pied.
Ou, oui. c'est une expression.
C'est une expression ou Mozart.
Alors c'est vrai qu'on est en train de sentir un frémissement, on sent qu'il se passe quelque chose dans le monde de la chaussette, je me trompe peut-être, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une filière qui est en train, tranquillement, doucement, sûrement, de redémarrer. Vous êtes arrivée, Camille, il y a 2 ans, c'est ça?
Oui.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans l'aventure?
Eh bien écoutez, en fait Archiduchesse c'était les actionnaires cherchaient un repreneur et du coup, moi je commençais à m'intéresser pour chercher à me projeter dans un projet entrepreneurial et du coup je me suis vraiment projetée dans ce projet là parce qu'il y a un vrai potentiel sur la chaussette et sur les chaussettes made in France, les produits made in France. Moi j'ai travaillé beaucoup sur le e-commerce, sur la stratégie digitale.
Alors,
et sur les produits de
qualité.
Alors
c'est ça qui vous a intéressé, c'est parce que Archiduchesse vend essentiellement dans le e-commerce, hein, en ligne.
Tout à fait, exactement. C'est vrai que quand Archiduchesse s'est lancé il y a 10 ans, c'était vraiment une nouvelle marque qui se lançait sur le digital avec des produits français, donc c'était très nouveau. novateur à l'époque. On proposait aussi plus d'une quarantaine de couleurs pour les chaussettes, ce qui était très nouveau. Le but, c'était de pouvoir associer toutes les couleurs de chaussettes avec toutes ces converses, c'était très à la mode. Et c'est vrai qu'il y a 10 ans, le digital commençait à se développer, mais on était au tout début de cet essor-là. Et donc, la marque s'est vraiment lancée à ce moment-là et a connu une forte croissance. Et aujourd'hui, nous, on est spécialiste du e-commerce puisqu'on réalise 95% de nos ventes online.
Vous êtes à Clichy, c'est ça?
Tout
vous
à
êtes
fait,
combien
ouais.
à Clichy chez Archiduchesse?
Aujourd'hui, on est 4, dont 2 stagiaires. Donc, on est une toute petite équipe. Et c'est vrai qu'on travaille, on est très lié avec l'entreprise Brousseau Textile. Eux, chez eux, ils fabriquent. Donc, ils ont plus d'une cinquantaine d'employés dans leur entreprise, une centaine de machines. C'est vraiment un partenariat ensemble.
En quelque sorte, vous êtes la filiale web de Brousseau.
Alors, on peut pas dire ça parce qu'on est des entreprises différentes et Brousseau Textile travaille avec beaucoup d'autres marques. Nous, c'est vrai qu'on est spécialisé digital et à la genèse d'Archiduchesse, c'était vraiment une rencontre entre Aymeric et Patrice, le créateur. Aymeric qui voulait vendre ses chaussettes online et du coup, le concept s'est monté un petit peu comme ça.
Que dit le coach Frédéric Mazella?
Alors, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a peut-être que c'est déjà fait, auquel cas je m'en excuse, mais de diversification, parce que là on parle de chaussettes. Pour moi, je me dis il y a les chaussettes, il y a les bonnets, il y a les gants, il y a les caleçons éventuellement.
Est-ce que vous diversifiez? C'est comme ça que ça existait au départ, hein, la bonneterie. Hein.
Est-ce que vous faites tous tout ou est-ce que vous faites tous que des chaussettes?
Ah, alors bonne question.
Alors, pour Kindy, nous faisons en même temps de la chaussette et du ce qu'on appelle de la lingerie pour hommes. Donc, on va faire caleçon, t-shirt, la culotte simple pour femmes, mais pas la lingerie au sens, élaboré. Ça, nous faisons. Mais la raison pour laquelle, et on va relancer cette partie-là, qui avait été légèrement mise en sommeil, mais ce ne sont pas les mêmes machines, en fait. Alors, si on parle très clairement de fabrication, une machine qui vous fabrique une chaussette et une machine qui va vous fabriquer un caleçon ou un t-shirt, ce n'est pas la même. Donc vous avez 2 lignes de production, même si on est dans des univers qui sont proches, en termes de process de fabrication, ce n'est pas la même chose.
Même chose pour vous chez La Bonale?
Alors nous, ça nous arrive de faire un peu de gamme complémentaire qui sont autres que de la chaussette, mais notre vrai métier reste la chaussette, c'est notre métier.
Et pour vous, évidemment, chez Archiduchesse, on est sur la chaussette, c'est en train de se décliner aussi.
Tout à fait, parce que nous, on n'est pas fabricants, donc on a l'avantage de pouvoir aller chercher nos fabricants de produits qu'on souhaite mettre en vente. Et notamment, nous, on a des collants qu'on va chercher dans l'Hérault, on a des t-shirts qui sont fabriqués dans le Nord et on a aussi des espadrilles qui sont fabriquées dans le Sud-Ouest. On va vraiment chercher nos fabricants en France.
On va parler de la production, de l'endroit, évidemment, où vous faites fabriquer les chaussettes en France ou ailleurs, de la provenance des fils. Dans un instant sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1.
N'hésitez pas à utiliser toujours notre compte Twitter avec le hashtag Europe 1. Venez nous dire si vous achetez vos chaussettes françaises. On vous attend, bien sûr. C'est la France qui bouge.
La France bouge, c'est votre émission tous les jours de 13h à 14h sur Europe 1. Et tous les jours, vous pouvez réagir, poser vos questions, témoigner sur Twitter avec le hashtag Europe 1 au 39-21. C'est le standard 50 centimes la minute. Et aujourd'hui, on parle des chaussettes made in France qui ont la cote avec vos invités, Raphaël.
Le coach du jour, c'est Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar. À mes côtés, Elisabeth Assayag. Et puis nos invités, Thierry Carpentier, co-dirigeant et repreneur de Kindy, Dominique Malfay, PDG de La Bonale, et Camille Zameau, présidente de la marque Archiduchesse. Dans les années 60, on le disait tout à l'heure, il y avait plus de 500 manufactures. Aujourd'hui, ça repart, mais c'est vrai que c'est plus timide. Je me tourne vers vous, Elisabeth. On fabrique beaucoup à l'étranger. Est-ce qu'on a une idée, par exemple, des coûts de fabrication? Parce que c'est ça aussi le nerf de la guerre.
Oui, c'est ça, et c'est clairement moins cher. Hein. Vous le savez, au Bangladesh, des chaussettes que vous trouvez dans les magasins, comme qu'on a cité tout à l'heure, H&M, Mango, elles coûtent en moyenne 20 centimes d'euros à fabriquer. Donc, c'est totalement imbattable sur le marché. En France, le coût de production moyen, il est de 5 euros. Donc, ça peut se comprendre que l'affichage moyen soit de 12 euros la paire.
Alors, Thierry Carpentier, je vous vois froncer les sourcils. Oui. Que se passe-t-il? Vous n'êtes pas d'accord?
Je suis pas d'accord avec tous les chiffres.
Quels sont les coûts de fabrication,
on dirait plutôt sur du 30-40 centimes quand on va être sur de la chaussette tige moyenne, c'est-à-dire la chaussette classique, coton qu'on a en tête. Enfin, coton, elle ne sera pas en coton d'ailleurs. 9 fois sur 10, à ce prix-là, elle ne sera pas en coton, elle sera en acrylique. Et en termes de coûts de production français,
coton,
après...
Coton, on va chercher... Plus cher, évidemment.
Oh oui, coton, matière noble, plus cher. Oui, bien sûr. D'ailleurs, la majorité des chaussettes qui sont fabriquées à l'étranger ne sont pas en coton. C'est-à-dire déjà une des premières, si les consommateurs qui veulent savoir si la chaussette elle est faite en France ou pas, déjà si elle est en coton, il y a de fortes chances qu'elle soit faite en France. C'est pas un indicateur certain, mais c'est un bon indicateur. Ensuite, le coût de production en France, moi je le vois quand même en dessous de ce que vous avez dit là, même s'il est à l'évidence en multiple fois 5, fois 6 par rapport à ce qui se fait à l'étranger, ça c'est sûr.
Camille Zamo, vous, ça vient d'Inde essentiellement, le fil qui est tissé pour les chaussettes qui sont fabriquées chez Brousseau, hein, du coup.
Oui, tout à fait, notre coton vient d'Inde et nous il était
pourquoi
vraiment important.
Pourquoi, c'est un choix
Déjà en France, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de filatures, donc il y a une nouvelle qui vient de se lancer et il faut trouver du coton en France et c'est vraiment pas simple.
Ça veut dire que c'est quelque chose que vous pouvez imaginer dans les années qui viennent ?
Alors on pourrait, après il faut voir aussi la fabrication parce qu'il faut qu'on ait assez de coton, je crois que on est sur le début. Et ensuite, nous on cherche quand même, on a des prix très attractifs sur notre site et du coup, notre coton vient d'Inde, si on le fait venir, si on arrive un jour à avoir un coton français, le coût va forcément augmenter encore plus et la fabrication plus la matière, ça commence à faire beaucoup.
Mes chaussettes Labonal, du coup, elles sont plus chères, Dominique Malfait, si elles sont fabriquées du début à la fin en France avec du coton français, par exemple.
Le coton, il faut faire la différence. Le coton, il n'est pas cultivé en France. Il y a quelques essais actuellement dans le sud-ouest, mais ils ne sont pas cultivés en France. Par contre, nous, on travaille sur notre nouvelle marque sur la transformation en France, c'est-à-dire des filatures en France qui ont quasiment disparu. Nos approvisionnements en marque Labonal sont en Europe, comme je l'ai dit, hein, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est le Portugal. Le fil, forcément, est un peu plus cher, hein, puisque notre coût matière première, notre coût fil est de l'ordre de 2 à 3 fois le prix d'une chaussette du Bangladesh. Mais voilà, on a un autre niveau, un autre grade de qualité, on a un autre confort, un autre produit, quoi.
Alors, on a une question au 39-21. Hervé nous appelle de Marseille. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Quelle est votre question à Kindy et à Labonal, je crois?
Oui, entre autres. En fait, tout à l'heure, il a été annoncé que le chiffre d'affaires global sur le marché français, c'est 300 millions d'euros. Que la totalité des chiffres d'affaires des entreprises françaises s'élève à 10. Donc moi, je voulais savoir, en termes de développement, si vous voyez plutôt sur le marché français ou attaquer les marchés étrangers, quoi, à l'export. Parce que si l'export du Bangladesh, le fil est beaucoup plus fin, à mon avis, parce qu'on met le pied trop fort dedans, il passe en travers. Donc peut-être essayer de vendre la qualité de la fabrication française à l'étranger, quoi.
Alors, qui veut répondre? Thierry Carpentier, Dominique Malfait, l'export?
Oui, alors l'export aujourd'hui, nous on n'est pas très très fort à l'export, c'est clair, hein, c'est un projet qu'on doit mener.
Mais c'est un choix ou c'est quelque chose
non,
que
non, c'est un choix par dépit parce que économiquement on est dans des situations qui sont pas faciles, hein, et pour faire de l'export, il faut avoir un ticket d'entrée assez élevé, on en a pas forcément les moyens actuellement. Mais en effet, c'est une piste à développer puisque le produit français sera d'autant plus apprécié à l'export qu'on trouve des produits bas de gamme en grand apport.
Même question pour vous chez Kindy, Thierry Carpentier.
Alors Kindy vient de créer sa première filiale à l'étranger. Donc nous venons de partir à l'export et nous venons de signer notre premier gros contrat. Donc nous allons distribuer Coq Sportif dans toute la Hollande et la Belgique. Donc c'est tout à fait possible, mais là où je rejoins Dominique, c'est qu'il faut qu'on ait un catalyseur, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une marque, une valeur qui soit autour du produit que l'on fait. Si on fait une chaussette simple qui n'a pas de valeur, pour aller la vendre à l'extérieur de la France, les autres pays vont nous égaler en termes de prix. On n'arrivera pas à se déterminer.
Oui, il faut se différencier.
Oui, différenciante, c'est évident.
Et tirer vers le haut pour pouvoir attaquer les différents marchés. Camille Zamo, je voudrais qu'on dise un mot d'une opération que vous venez de lancer. On en parlait tout à l'heure, la fameuse chaussette isolée, la chaussette orpheline. Vous avez décidé de les récupérer.
Tout à fait. Il y a 2 semaines, on a lancé une grande récolte de chaussettes pour créer la plus grande montagne de chaussettes, puisqu'on s'est rendu compte, déjà chez nous, chez Archer Duchesse, mais aussi chez nous en personnel, qu'on avait beaucoup de chaussettes qui traînaient à droite à gauche, des chaussettes qu'on n'utilisait plus, qui étaient orphelines. Et du coup, l'idée, c'est de lancer une récolte, qu'on puisse remettre des paires ensemble et ensuite les reverser à des associations. Et on s'est associé à l'association Soc en Stock, qui reverse ces chaussettes-là à des organismes humanitaires, type la Croix-Rouge et l'Armée du Salut.
Les actions sociales, c'est important chez vous. Hein. Vous participez aussi à Octobre Rose, vous reversez les bénéfices justement à une association. Vous êtes très engagé sur ce sujet. Un mot pour finir, le coach Frédéric Mazella.
Moi, je trouve ça super l'opération de récupérer les chaussettes orphelines. Je pense qu'après, ça doit être un sacré jeu parce qu'on se souvient tous quand on était petit là des jeux des pères là où faut se
le
souvenir
mémo.
Quand on ouais le mémo là, mémo, là oui. Quand on a vu deux canards, enfin un autre canard, il faut mettre le canard avec. Là, je pense que le jeu des paires de chaussettes, je fais appel aux volontaires. On va avoir besoin d'énergie.
On veut bien
retrouver les paires et les reconstituer, surtout avec les tailles, les couleurs et tout. Enfin, ça va être sympa. Je pense qu'il y en a pour une année.
Ouais, tout à fait. On va bien s'amuser.
Merci à tous les trois d'être venus nous parler de la chaussette française. On vous retrouve évidemment au salon du Made in France. On reste ensemble, on continue à débattre sur Europe 1.
Il est 13h38.
Europe 1.
Et si on glissait nos pieds maintenant dans des camarguaises fabriquées chez nous, c'est la Botte Gardiane et c'est l'entreprise qui va bien. Merci.
Jusqu'à 14h sur Europe 1, la France bouge et tous les jours, Raphaël Duchemin, vous mettez en avant une entreprise française, bien sûr, qui va bien aujourd'hui après les chaussettes, les chaussures.
Oui, et cette entreprise, eh bien, sachez qu'elle existe depuis 1958. Bonjour Fanny Agulon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes la co-gérante de la Botte Gardiane. Vous êtes aussi la directrice artistique de cette belle maison qui a été rachetée par votre père en 1995 alors qu'elle était en faillite.
Oui, ça remonte à très très loin. Il y a eu une grande évolution dans la marque. Puisque mon père la reprend dans les années 95, il y a alors trois personnes. En faisant des petits salons et des choses comme ça, il remonte la marque. Et en 2002, on fait un salon professionnel à Paris. Et là, les Japonais découvrent les produits, le savoir-faire, les cuirs et tombent amoureux de la botte. Et c'est eux qui ont permis de sauver la marque.
Alors dites-moi, qu'est-ce qui lui a donné envie à votre père, justement, de mettre de l'argent, du temps dans cette fabrique de bottes traditionnelles camarguaises? Si vous êtes avec nous sur europe1.fr, vous pouvez les voir, hein, ces bottes traditionnelles, elles sont magnifiques. Je crois que votre père a repris l'entreprise pour 4000 euros au départ, mais il en a mis beaucoup plus après, hein, de l'argent dedans.
Oui, tout à fait. Il a beaucoup investi. Après, c'est vrai qu'il
200 000 euros, ne serait-ce que dans les machines.
Oui, et puis bien plus que ça, en vrai. Mais en fait, il était vraiment amoureux du produit et il trouvait dommage que cette entreprise se perde et que ce savoir-faire se perde, surtout sur des produits aussi qualitatifs qui ont à l'origine une vraie fonction, puisque c'est pour les gardiens.
Oui, pour nos cow-boys à nous, en Camargue.
Pour nos cow-boys, mais oui. Et oui, il a eu un vrai amour du produit et du savoir-faire qui était présent dans la région.
Oui, c'est fait main, ces bottes-là. Oui. Encore aujourd'hui, c'est cloué, c'est assemblé, le cuir est tanné ici.
Ouais, tout est fait en France et on est effectivement les derniers à avoir ce montage qui est cousu, collé, cloué, qui rend quand même la chaussure assez indestructible. Là, si vous regardez à la radio, il y a une chaussure neuve et une qui a 28 ans. Et c'est vrai que ça ne bouge pas,
ça ne change pas. Elle est juste patinée par le temps et par l'usage, mais elle est intacte. Hein. La semelle n'a pas bougé, le cousu non plus. Comment est-ce que vous avez fait justement pour redresser la barre quand vous reprenez là en 1995? Comment on relance grâce aux Japonais notamment?
Et ben après, c'est aussi d'arriver à sortir de la Camargue pour venir à Paris et présenter les chaussures à une autre clientèle. C'est aussi sortir un petit peu la chaussure de la Camargue. À la base, on est quand même sur une chaussure d'homme, une chaussure de travail, d'extérieur.
Ça veut dire que vous avez changé les modèles, vous avez relooké un peu les choses?
Oui, on a relooké, en gardant l'ADN, diversifié. Aujourd'hui, la clientèle, elle est quand même principalement féminine, alors qu'à la base, c'était quand même pour l'homme. Donc voilà, ça passe aussi par changer la hauteur de la botte, la transformer en bottine pour trouver un nouvel usage. Là, l'idée, c'était vraiment d'urbaniser la marque.
Que dit le coach Frédéric Mazella?
Je trouve que c'est très bien parce que là on est typiquement, je trouve, quand même dans l'approche luxe dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on valorise le savoir-faire et quelque part on valorise aussi la marque France. Donc c'est vrai que les exportations, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut encore appuyer si vous pouvez, parce que je pense qu'il y a une vraie carte à jouer à l'international sur justement ce genre de savoir-faire.
C'est 30% aujourd'hui de votre activité.
C'est 30% aujourd'hui. On a commencé en 2002, c'était 60%. Mais après, on a ouvert des boutiques. On a ouvert une boutique, deux boutiques à Paris, une boutique à Lyon. Du coup, la France reprend pas mal de marge sur le chiffre d'affaires aujourd'hui.
Parce que vous parliez des Japonais, mais est-ce que vous avez d'autres... Enfin, des Japonais à l'époque, en 2002, mais est-ce que vous avez d'autres nationalités typiquement qui vont raffoler de vos bottes?
Oui, alors bon, le premier, ça reste quand même le Japon. Il y a les États-Unis, il y a la Corée. Après, on est dans toutes les capitales européennes. On est à Singapour, en Australie, enfin on est un petit peu, on est sur les 5 continents quand même. Mais c'est vrai qu'il y a encore une marge de développement à l'export, parce que même en boutique à Paris, on voit qu'il y a une clientèle très étrangère et qui est vraiment très friande des produits qu'ils retrouvent nulle part ailleurs en fait.
Fanny Aguelon, vous en faites 15 000 comme ça par an, des bottes, c'est ça ? 15 000
oui.
Qui sortent de l'usine, qui est toujours dans le sud, hein, toujours aux portes de la Camargue. Vous avez obtenu aussi, et ça c'est important, le label Patrimoine Vivant, l'entreprise du Patrimoine Vivant. En 2007, ça c'est aussi un gage supplémentaire quand on va vendre en France, mais aussi à l'étranger.
Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que c'est un label qui récompense vraiment l'excellence des savoir-faire. Et il n'y a que 1400 entreprises qui l'ont en France, donc on est vraiment sur quelque chose d'unique et de rare. Et c'est ce qu'on cherche à préserver. Donc on l'a effectivement depuis 2007.
Préserver et moderniser, parce que vous faites aussi du sur-mesure, vous avez une offre personnalisée, ça c'était important.
Oui, après ça c'est aussi ce qui fait un peu notre force, c'est qu'on a à la fois plus de 100 cuirs différents et on peut choisir son sac, sa ceinture, sa sandale dans n'importe quel cuir.
Ils sont là, je les ai avec moi, hein, les coloris et tout. Ouais.
Et oui, il y a toutes les qualités, il y a de la peau de mouton, il y a du veau, il y a des cuirs métallisés.
Tout est français, la plupart en tout cas.
La plupart est français, le veau velours vient d'Italie.
Parce que c'est une spécificité.
Parce que la qualité était très bien là-bas.
Une question d'Elisabeth.
Je peux vous demander combien coûte la botte basique, là, celle que l'on voit sur Europe1.fr,
la traditionnelle.
La traditionnelle, parce qu'il y a énormément d'imitations de votre botte.
Oui.
Alors combien coûte-t-elle ?
Ça a été imité en effet. Elle coûte 350 euros du 34 au 46.
Oui, avec évidemment une longévité qui n'est plus approuvée.
Oui, non, là, le produit, il est rentable.
Et franchement,
pour celui qui l'achète.
Compte tenu de la qualité, le prix, c'est un très gros prix, mais c'est totalement. Je trouve que ça vaut la peine par rapport à la qualité.
1958, cette botte gardienne. Merci, Fanny Aguelon, d'être venue nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h47.
Europe 1.
Il s'appelle Bob et même si vous habitez dans un studio, il peut vous rendre service. C'est le plus petit lave-vaisselle qui existe sur le marché. Et c'est la solution Made in France du jour.
Jusqu'à 14h, la France bouge sur Europe 1 avec vos invités. Raphaël Duchemin, on donne bien sûr la parole à ces entreprises françaises qui innovent. Et tous les jours, juste avant 14h, vous nous proposez une solution pour nous faciliter la vie. Alors celle d'aujourd'hui, elle va faciliter la vie de bien nombreux auditeurs.
Marre de faire la vaisselle,
oui.
Mais pas la place ni les moyens de vous offrir un lave-vaisselle. Bob est peut-être votre solution. Il est gros comme... Allez, un micro-ondes, un peu plus, il fait la vaisselle. Je vous parle d'un mini lave-vaisselle 100% français, Elisabeth Assayag.
Ben oui, imaginez un lave-vaisselle ultra compact. Il est là, à côté de nous. Vous allez pouvoir
le voir sur Europe1.fr.
C'est le plus rapide du monde. C'est un petit condensé de technologie. Il est petit, connecté, écologique. Et de plus, il fait votre vaisselle en un minimum de temps. Il s'appelle Bob.
Il s'appelle Bob et son créateur ne s'appelle pas Bob, c'est Damien Pi, bonjour.
Alors on est deux créateurs, Damien Pi et Antoine, qui a fait Dantec. Et en fait Bob, on se dit avant il y a Bob l'éponge et maintenant il y a Bob le lave-vaisselle. Et l'idée en fait c'est permettre à tous les gens qui sont encore contraints d'utiliser l'éponge, d'en finir avec l'éponge et d'utiliser Bob.
Mais vous êtes vous-même étudiant?
Alors je ne suis plus étudiant, on est une vraie entreprise.
Quand vous étiez étudiant, quand vous avez eu l'idée de lancer Bob?
Tout à fait en fait. Alors on a
vous
eu
en
l'idée...
aviez marre de faire la vaisselle.
Exactement,
c'est ça.
On avait marre d'utiliser l'éponge. Et du coup on s'est dit, faut faire quelque chose. Et l'idée c'est un petit lave-vaisselle qui se pose à côté de l'évier sur l'égouttoir. Il n'y a pas besoin d'arriver d'eau parce qu'on le relie en fait juste au réseau électrique. On remplit le réservoir comme une machine à café de 3 litres. Et ça suffit pour laver en 20 minutes, c'est la vaisselle quotidienne de 2 personnes. C'est-à-dire 4 assiettes, 4 verres, 2 tasses et 2 bols. Donc là, pour le réservoir, on a un petit capuchon sur le dessus qu'on peut enlever.
Au-dessus, là, oui.
Exactement. On remplit avec un pichet d'eau.
On met de l'eau.
Et ça suffit pour laver en 20 minutes. Et on a quand même la possibilité de le connecter au réseau d'eau. Typiquement, si on est propriétaire ou qu'on veut l'encastrer, on peut le faire.
Bon, alors, on l'entend, il est génial, il est totalement révolutionnaire. Il coûte combien ?
Alors, à terme, Bob coûtera 299 €, mais pour les Early Birds, il est encore à 199 € sur notre site internet en précommande. Donc, on est déjà à 4600 précommandes.
C'est quoi les Early Birds?
C'est ceux qui commandent avant tout le monde.
Pour que vous puissiez entamer la fabrication.
Exactement. En fait, Bob sera livré seulement l'été prochain, puisqu'il y a des délais d'industrialisation qui sont assez longs. Mais en fait, en dédommagement de ça, on fait un tarif préférentiel qui est 100 € de moins par rapport au prix final.
Mais 299 €, ce lave-vaisselle, alors il est magnifique, on pense évidemment aux étudiants, mais 299 € pour un lave-vaisselle, moi j'ai envie de dire à l'étudiant, fais ta vaisselle, ça reste très cher tout de même.
Votre étudiant ou votre étudiante ne vous supplie pas de l'avoir pour Noël, parce que quand il supplie d'avoir un iPhone, il l'a, donc il ne faut pas oublier ce détail-là. Puis surtout,
argument de vente, dites-moi.
On ne vise pas que les étudiants, en fait. Nous, sur toutes les personnes qui ont commandé Bob aujourd'hui, il y a plus de 50% qui ont plus de 30 ans, donc ce n'est pas seulement les étudiants.
Donc pour des petits espaces peut-être.
Nous, en fait, c'est toutes les personnes qui vivent seules ou en couple. On a beaucoup de personnes qui ont
dans
plus de 50 ans.
Dans des petits espaces et qui n'ont pas la place de mettre un vrai lave-vaisselle, un grand lave-vaisselle.
Pas l'usage. On a beaucoup de personnes qui ont un gros lave-vaisselle, mais qui ne l'utilisent pas, ils l'utilisent seulement quand les enfants viennent.
Que dit le coach Frédéric Mazella?
Moi, d'abord, je le trouve très beau.
Oui, il est très beau.
C'est le iMac des lave-vaisselles.
Ouais, c'est vrai.
Voilà. Il a un look révolutionnaire. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas révolutionné le look des lave-vaisselles. Donc là, je trouve que c'est quand même vraiment une bonne idée. Parce qu'en fait, oui, c'est pas l'objet le plus beau de la maison, d'habitude, le lave-vaisselle. Et là, il y a une recherche d'esthétique. Donc déjà,
ouais, avec
ça,
le hublot devant.
Ouais, c'est très marrant. Voilà. Ensuite, c'est vrai que 299 €, oui, ça peut paraître un peu cher, donc effectivement faut se ruer sur 199 parce que c'est déjà 100 € de moins, donc faut y aller tout de suite. D'ailleurs, on le trouve où? C'est quoi? C'est un site de crowdfunding que vous avez fait?
Alors non, en fait nous c'est sur notre site internet, donc dan.tech, Damien et Antoine.tech, T-E-C-H. Et en fait, pourquoi notre site internet? Parce qu'on peut le personnaliser. Il y a 12 couleurs pour la porte, 2 pour le corps, blanc ou noir. Et on peut même graver un petit message à l'arrière.
Ah, génial!
Elisabeth?
Et alors, après le lave-vaisselle, ce sera quoi la suite?
Le lave-linge.
Ouais, le lave-linge, ce sera tellement utile.
Effectivement, on a toute une gamme de produits en tête. Nous, l'idée à terme, c'est de devenir un fabricant d'électroménager, de relancer un peu une filière qui, on va dire, pas très en vogue aujourd'hui par rapport à d'autres. Mais voilà, déjà, Bob, c'est notre premier produit. On se concentre là-dessus sur les prochains mois. Et évidemment, on espère.
Et Bobby, le lave-linge?
On va pas spoiler. Mais on laisse encore plein de surprises.
C'est dans la tête.
C'est dans la tête, évidemment.
Bon, vous reviendrez nous en parler.
Ah,
évidemment.
Avec grand plaisir.
On prend rendez-vous. En tout cas, merci pour Bob et pour tous ceux qui vont l'utiliser. Merci à Frédéric Mazella d'avoir été notre coach aujourd'hui. On se dit à bientôt. Elisabeth, nous, on se retrouve demain.
On va parler de quoi demain?
Anissa, nous allons jouer demain.
Ah, génial.
Le jouet français.
On va préparer Noël. C'est super. Merci beaucoup. C'était Raphaël Duchemin sur Europe 1 à 14h pile. Dans un instant, donc, vous avez rendez-vous avec Christophe Ondelat, comme chaque jour, avec ses récits incroyables. Bonjour Christophe.
Bonjour Anissa. Aujourd'hui, je vais vous raconter une évasion célèbre, l'évasion de 3 détenus de l'abbaye de Fontevraud, dans le Maine-et-Loire, en 1955.
Voilà, une heure donc avec des rebondissements, 3 évasions, une cavale et bien sûr la traque, les évadés de Fontevraud. C'est à 14h pile sur Europe 1.